Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molima, Aouta.
Carnage de Massissi en Ituri, les FARDC indiquent que les civils étaient pris en tenaille entre les feux des deux groupes armés qui se disputaient le contrôle d'un site minier. Ils demandent à cet effet à la population à se désolidariser des groupes armés et à faire confiance aux forces de sécurité. Et puis le nouveau gouverneur élu de la Tchopo, tout en félicitant son challengeur, Madame Madeleine Nikomba, s'est dit prête à travailler avec ses rivaux dans le cadre des projets qu'ils ont conçus pour la Tchopo. Telle est la première déclaration de Tony Kapalata après sa proclamation par la CENI. Enfin, notre invitée dans cette édition du journal, c'est Madame Claudine Ndike Mapendo, directrice de la sous-division provinciale de la formation professionnelle et des métiers à Goma. Elle s'exprime sur les bienfaits de la formation professionnelle et des métiers. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. En Ituri, l'armée rassure la population que toutes les dispositions sont mises en place pour renforcer la sécurité dans la région de Massissi, en Ituri, afin d'éviter d'autres tueries de civils dans cette région. Ce, après l'attaque survenue dimanche dans la localité de Massissi, à 92 km au nord-ouest de Bounia, dans le territoire de Djougou. Dans un communiqué publié ce lundi à Bounia, les forces armées de la République démocratique du Congo indiquent que ce drame est dû à une dispute entre les groupes armés Zaïre et Codeco pour le contrôle des sites miniers situés au camp Blanquette dans la localité de Massissi. De nombreux civils qui se sont retrouvés pris en tenaille entre les feux de ces deux milices ont perdu la vie lors de ces affrontements, indique le communiqué des FARDC. L'armée, qui ne donne pas de bilan de cette attaque, appelle la population à se désolidariser des groupes armés et à faire confiance aux forces de sécurité. Le porte-parole des FARDC en Ituri, le lieutenant Jingongo, est au micro de Martial Kizabiamungu.
Des groupes armés se disputent le contrôle de cette carrière, à savoir la milice Codeco et Zaïre. Malheureusement, pendant leur sale besogne, certaines personnes se sont retrouvées entre deux faits, décès hors la loi. Et donc plusieurs ont perdu la vie et leur case brûlée. Le bilan reste à confirmer, les morts et les dégâts matériels. Nous demandons à notre population de se désolidariser avec ces hors-la-loi, même s'ils sont de la même communauté. Aucune communauté peut se prévaloir d'assurer sa protection. Nous rassurons la population que tous les dispositifs sécuritaires sont mis en place pour renforcer la sécurité dans la région et que la justice fera son travail, car ces actes ignobles ne resteront jamais impuni.
Pour sa part, la communauté Nyalikilo avance un bilan provisoire de 55 personnes tuées et 34 autres blessées dans cette tuerie. Au nord Kivu pendant ce temps, quelques parties des territoires de Massissi et Walikale les font face à l'activisme des groupes armés et conflits intercommunautaires. C'est notamment la zone de Osso, Banyungu et Waloa. Selon plusieurs sources locales, plusieurs villages ont été les théâtres d'accrochages entre groupes armés dans cette entité depuis le début du mouvement de relève des militaires FARDC. Bernadette Nyangui.
Le retour des militaires FARDC dimanche vers 22h a fait baisser la tension dans la localité d'Entoto, chef-lieu du groupement Waloa-Uroba, est du territoire de Walikale, précise des sources civiles dans la zone. Pour ces sources, le départ des FARDC de ce village en début de la semaine dernière a entraîné des conséquences. Le groupe armé Mouvement d'Action pour le Changement MAC aurait profité de cette absence pour attaquer le village vendredi. L'accrochage qui s'en est suivi contre les éléments de la police nationale, basée à Braza, 4 km d'Entoto, a fait deux morts côté assaillant et un policier blessé. Dans le groupement voisin en territoire de Massissi, la zone est dégarnie par des FARDC en relève, continue à susciter des tensions. Un groupe de Mai Mai APCLS s'est affronté aux bergers armés dans la localité de Boutique, groupement Nyamaboko premier jeudi, occasionnant un déplacement des populations. Et samedi, une autre incursion d'hommes armés a été signalée dans le village Kalinga, groupement Biiri, faisant un civil blessé et du bétail volé. Là, les acteurs locaux plaident pour le redéploiement urgent des militaires FARDC. Goma, Bernardin Aguirre, Radio Kapi.
Au Sud Kivu, commémoration de la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dimanche dans la cité de Sangué, pleine de la Ruzizi, en territoire d'Uvira. Les secouristes volontaires de la Croix-Rouge et de la République démocratique du Congo, territoire d'Uvira, ont lancé l'appel aux groupes armés actifs dans la région au respect de sept principes fondamentaux de cette organisation, dont l'humanité. À travers la Croix-Rouge, ces secouristes volontaires interviennent dans le but de sauver et protéger protéger les vies humaines en luttant contre les épidémies et les catastrophes naturelles. Et ce, malgré plusieurs risques qu'ils encourent dans cette région confrontée à l'insécurité. On écoute le secrétaire territorial de la Croix-Rouge, Ouvira, Djafari Biadounia Mouchoumawa Diallo, joint par Fiston Goma.
En tant que sécuriste, d'abord nous nous penchons sur sept principes fondamentaux qui nous gèrent. Mais vraiment, nous sommes beaucoup coincés par les appels anonymes des groupes armés. Nous avons même des difficultés à tourner dans les différents milieux, dans le Bijombo, dans le Haut-Plateau. Cette année, nous avons connu des kidnappings d'un coordinateur de la Croix-Rouge au niveau de Lubanga. Des difficultés par rapport aux groupes armés qui ne cessent de nous intimider, de nous attaquer aussi. Même hier, pendant que nos amis étaient à Rubanga, ils ont été à des intimidations des groupes armés qui font de péage routier au niveau de Rubanga. Nous n'avons pas assez de matériel adéquat pour la gestion des catastrophes. L'appel à lancer aux groupes armés, c'est leur dire la Croix-Rouge, les secouristes volontaires Croix-Rouge, ils sont là au bénéfice de toute la population. Nous sommes là au service de l'humanité. Nous travaillons pour tous. Nous n'avons pas une couleur de groupes armés qui nous laisse travailler dans la paix.
Signalons que le casque bleu pakistanais de la MONUSCO Sangé ont appuyé ces activités commémoratives inscrites sous le thème national « Croire au pouvoir de la gentillesse ». Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, dans la province de la Tchopo, les gouverneurs élus, en vertu de l'article 170 de la loi électorale, encouragent son challengeur, Madeleine Nikomba, pour les combats héroïques qu'elle a menés à l'élection du gouverneur de cette juridiction. Tony Kapalata Maulo s'est dit prêt à travailler avec ses rivaux dans le cadre des projets qu'ils ont conçus pour la Tchopo. Ce sont là quelques mots de sa première déclaration devant la presse, quelques heures après l'annonce des résultats du second tour du scrutin qu'il a porté à la tête de la Tchopo. Il a remercié également les hautes autorités du pays qu'il avait désigné comme candidat de l'Union sacrée à cette élection. Les propos de Tony Kapalata ont été recueillis par Jacques Moukonkolé.
Je pense que l'heure est venue pour que nous puissions avancer main dans la main, porter le changement tant voulu par nos autorités au sein de la province. Je pense qu'il serait important pour moi de remercier tous ceux qui ont participé aux élections, tous les candidats, pour l'ambiance qu'il a régnée, malgré quelques petits couacs qu'il y a eu. J'encourage Madeleine Nikomba et je pense que nous aurons l'occasion certainement de travailler main dans la main avec elle dans le cadre de nos différents projets que nous avons avec la Tchopo. Parce que je sais que c'est une sénatrice qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup d'intentions et qui veut vraiment travailler pour notre province. Donc je la remercie de tout cœur. Vive la Tchopo, vive les RDC. J'ai eu à partager avec eux pendant le bain de foule qu'il y a eu tout à l'heure. Ils ont exprimé leur desiderata, comme tout le monde le sait, la route, le carburant, la lumière. Et je pense que ce sont nos priorités. Et comme je l'ai dit toujours dans mes discours, nous sommes là pour le peuple. Nous avons été envoyés par l'Union sacrée pour résoudre le problème de la province. Et mettons-nous ensemble au travail. C'est pas M. Tony, mais toute la province qui doit être main dans la main dans ce travail pour que Tchopo demain devienne vraiment prospère.
Rappelons que concernant la province de la Tchopo, Denis Kadima, président de la CENI, a indiqué que les deux candidats gouverneurs étant en égalité des voix, le candidat le plus âgé l'emporte selon la loi portant organisation des élections en RDC. Autre nouvelle, le président Tshisekedi et ses homologues ont adopté ce lundi la déclaration d'Abidjan, un engagement politique fort pour concrétiser la lutte contre la désertification et la sécheresse en Afrique en investissant dans la réparation des terres dégradées. C'est ce qu'indique le compte Twitter de la présidence de la République. C'était au cours du sommet des chefs d'État de la COP15 sur la lutte contre la désertification et la sécheresse ouvert ce lundi à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ouverture ce lundi 9 mai à Cape Town en Afrique du Sud du forum Indaba Mining. Le premier ministre Samalou Kondé, accompagné de plusieurs ministres, dont celui des mines et de la communication et médias, des membres de la FEC, du gouverneur du Haut-Katanga, ainsi que plusieurs conseillers de la présidence, participent à cette rencontre qui va durer 3 jours. Cynthia Bachizi, Nabizana, quels sont les enjeux de participation de la RDC à ce forum?
Avant de parler des enjeux, quelques chiffres pour planter le décor. Selon les organisateurs Indaba Mining, c'est plus de 6000 participants chaque année. Ils représentent quelques 800 multinationales et environ 40 délégations gouvernementales et paragouvernementales. Le premier ministre congolais Samalou Kondé, dont la locution est attendue ce mardi, est à la tête d'une importante délégation. Nous sommes vraiment dans une optique de vendre l'image de la RDC en suscitant un certain attrait dans le chef des potentiels investisseurs. Il faut savoir que le pays participe dans un contexte de valorisation de ses minerais, surtout ceux qui sont dits stratégiques, le cas du cobalt. Cela signifie simplement que la RDC ne peut plus se limiter à exporter ses minerais stratégiques et importer les biens et équipements qui en découlent. Il faut pour cela développer une industrie minière qui soit compétitive localement, et c'est là que participer à ces genres de conférences minières peut être intéressant. Il faut vraiment s'inscrire dans une perspective de conclure des partenariats qui soient gagnant-gagnant pour que le secteur minier soit véritablement un levier du développement socio-économique tant espéré.
Et puis, définir les options relatives au fonctionnement des activités aux frontières entre la RDC et le Rwanda, 24 heures sur 24, en vue de la fluidité du commerce transfrontalier. La question était au centre d'un échange depuis hier lundi à Kigali, au Rwanda. Cette réunion bilatérale RDC-Rwanda réunit les experts des deux pays, indiquent certaines sources officielles à Goma. Le maire de la ville de Goma, le commissaire supérieur principal François Kabeyama Kosa, fait partie de la délégation de la RDC qui serait conduite par le ministre congolais du commerce extérieur, selon certaines sources de la mairie. Les services douaniers et de l'immigration prennent également part à cette rencontre qui doit durer 4 jours, selon nos sources. Alors, le Kassa oriental est relié à d'autres provinces par les routes nationales numéro 1 et numéro 2. Cependant, une grande partie de ces réseaux routiers est fortement dégradée et impraticable pour les camions. À certains endroits, les voyageurs descendent des véhicules, traversent à pied le point chaud avant de poursuivre le voyage. L'état des routes prolonge le temps de voyage et ne facilite pas la circulation des personnes au centre du pays. Des explications avec Esther Ndalafina.
Le Kassai oriental peut être accessible à travers les réseaux routiers. La route nationale numéro 1 relie les villes de Boma en passant par Matadi, Kinshasa, Kenge, Chikapa, Kananga, Mbujima, Ilikasi jusqu'à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Tandis que la RN2 relie les provinces de Maniema, du Sud et Nord Kivu en passant par les villes de Mbujima, Kabinda, Lubao, Mwenga, Kabare, Bukavu, Kale, Goma, Rutshuru, Lubero jusqu'à Beni dans le Nord Kivu. Cependant, toutes les routes nationales sont dans un état de délabrement très avancé. Les liaisons sud-nord, est-ouest sont presque inexistantes. La soif de la mobilité a poussé les hommes à imaginer sans cesse de nouveaux moyens de transport, comme par exemple la motocyclette, leur permettant d'aller plus vite et plus loin. C'est ainsi que de plus en plus, la ville de Mbujimayi accueille les voyageurs en provenance de Kinshasa, de Lualaba et du Haut-Katanga venus par motocyclette. Certains observateurs estiment que cette pratique qui s'installe de plus en plus réduit le statut de la ville en une petite cité ou un village suite aux moyens de transport utilisés pour l'atteindre. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Continuons à parler de l'intérieur du pays. Dans la province du Maniema, le bourgmestre de la commune rurale de Kalima hausse le ton et demande la prise de conscience des autorités provinciales et nationales sur le fonctionnement de cette commune. Dans un état des lieux fait par cette autorité communale le 8 mai dernier, commençant par le bureau, en passant par les situations administratives, sécuritaires, économiques, sociales et éducatives, rien ne marche selon elle. C'est ainsi que Kiko Biafataki Filemon sollicite l'intervention des autorités ainsi que les ONG. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Que les ONG songent pour la construction d'un bureau de la commune de Kalima avec tous les services de l'État, car cette entité fonctionne dans une maison en location dont le coût est de 150 000 francs congolais par mois. Doter un moyen de transport au bourgmestre de la commune de Kalima pour faciliter l'itinérance et répondre aux invitations urgentes. Fournir la commune de Kalima des matériels routières pouvant servir à la réhabilitation des axes routiers, renforcer les effectifs de la police nationale congolaise pour la sécurité de la population et de leurs biens, affecter les magistrats et les juges au niveau des parquets et des tribunaux de grande instance pour le bon fonctionnement de la justice. Pour le bon fonctionnement de l'appareil administratif de la commune, il serait mieux que les agents passent au régime statutaire, soient budgétisés et rémunérés dans les jours à venir.
Actualité internationale.
Abidjan est pendant 2 semaines la capitale mondiale de la lutte contre la désertification à l'occasion de la COP 15 qui s'est ouverte ce lundi 9 mai. Une douzaine de chefs d'État sont sur place, dont 9 Africains. Alassane Ouattara a ouvert ce lundi matin la COP 15 contre la désertification en dressant un tableau sombre de la situation environnementale. La dégradation des sols affecte 52% des terres agricoles et menace 2,6 milliards de personnes. 12 millions d'hectares de terres arables sont perdus, a-t-il dit. Pour contrer ces phénomènes et restaurer 3 millions d'hectares de forêt d'ici 2030, le président ivoirien souhaite notamment miser sur l'agroforesterie et impliquer les secteurs privés. Et pour permettre à la Côte d'Ivoire de restaurer ses terres dégradées et renforcer durablement la productivité agricole, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a donc demandé aux bailleurs de fonds internationaux de contribuer à hauteur de 1,5 milliard de dollars sur 5 ans. Et puis, le président américain Joe Biden a signé lundi une loi permettant d'accélérer l'envoi à l'Ukraine d'équipements militaires réactivant un dispositif emblématique datant de la Seconde Guerre mondiale. Les Ukrainiens se battent tous les jours pour leur vie, a-t-il déclaré aux journalistes présents dans le bureau ovale, ajoutant « Ce combat coûte cher, mais céder face à l'agression serait encore plus coûteux. »
L'invité.
Madame Claudine Dikema Pendo, directrice de la sous-division provinciale de la formation professionnelle et des métiers à Goma, est notre invitée dans cette édition du journal. Elle s'exprime sur les bienfaits de la formation professionnelle et des médias. C'est juste après une conférence tenue à Goma la semaine dernière sur l'efficacité d'une collaboration entre les entreprises et les centres de formation professionnelle et des métiers. Claudine Dikema Pendo s'entretient avec Mathieu Ilunga Chamboui. Suivez.
Madame Claudine, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Pourquoi l'organisation de cette rencontre avec une conférence? Pourquoi?
En fait, nous avons organisé une conférence pour réunir les centres de formation professionnelle et les entreprises de la place. Les deux sont des partenaires conditionnels. Ils doivent toujours continuer à collaborer, continuer à communiquer pour l'intérêt général des apprenants et de tous les pays.
Êtes-vous satisfaite du déroulement de cette conférence?
Je suis même au-delà de la satisfaction. C'est la toute première activité de grande envergure à Goma parce que notre ministère jeune, on n'a jamais eu vraiment ce genre de rencontres. J'ai invité les experts étrangers locaux, les Camerounais, aussi les Burkinabés, les grands professeurs d'université qui proviennent de Kinshasa et experts qui a présenté, il nous vient de Burkina Faso. Ils nous ont beaucoup dit si ce qui a fait que chez eux, ils ont amélioré ces domaines-là. Vous savez, si nous améliorons dans ces domaines-là, nous allons booster même l'économie de notre pays parce qu'il est dit que c'est la classe moyenne qui développe les pays. Et nous ne pouvons pas avoir la classe moyenne au Congo si nous n'avons pas les gens qui font le métier, les gens qui sont dans le domaine de la formation professionnelle, capables de concevoir, de créer leur propre emploi par la main, qui sont capables de monter des choses. Et que pour que cela soit vraiment une réalité, il fallait qu'on puisse réunir les centres de formation professionnelle et les entreprises pour qu'ils comprennent qu'ils doivent travailler en collaboration. Les entreprises doivent recevoir les étudiants en stage qui proviennent des centres de formation professionnelle, mais aussi les centres professionnels doivent former en tenant compte des besoins réels des entreprises. Et pour que ces entreprises aient au finish les rendements, il faudrait qu'ils utilisent une main-d'œuvre qualifiée. Et cela ne proviendra que des centres de formation professionnelle.
Vous dites que vous êtes satisfaite et pourtant, il semble qu'il y a un conflit entre l'éducation régulière et la formation professionnelle et métier. Comment dissiper ces malentendus?
Il n'y a pas de conflit au sens strict. En tout cas, il n'y en a pas. Il n'y a pas, en tout cas, de confusion aussi. La formation normale, c'est pas sur une longue durée, beaucoup d'années. J'ai passé au banc de l'école plusieurs années. Mais le domaine des métiers ou des formations professionnelles ne demande pas beaucoup d'années comme ça. Ça peut prendre 6 mois, ça peut aller à 1 année et qu'on sort. Et vous aurez un document qui certifie que vous avez fait cette formation pendant autant d'années et vous allez être efficace dans les entreprises. Vous allez prester, vous serez à la hauteur, vous aurez des capacités qui vous permettront même d'affronter le monde du métier et de l'emploi.
Et donc, c'est une formation de dernière minute ou bien des personnes qui ont raté l'éducation régulière?
Non, c'était ça la conception au départ. On pensait que pour envoyer l'enfant aller faire les métiers ou pour que vous-même vous puissiez vous engager à aller faire les métiers, ça veut dire que vous avez déjà manqué à faire. Les gens considéraient ça comme c'était la dernière chose qu'on peut faire quand on a tout manqué, quand on a raté l'éducation. Mais c'est vraiment une mauvaise leçon. La réalité est que c'est les métiers qui aident chaque pays à se développer. La technique, c'est les métiers. Il est grand temps qu'en Afrique, on comprenne déjà que c'est le travail de main qui va aider le pays à se développer, qui va nous développer nous-mêmes, qui va nous permettre d'avancer. Ça veut dire qu'il faut amener les promoteurs des centres à comprendre qu'ils doivent tenir d'abord compte des besoins dans les milieux pour former quel type d'hommes dans ces centres qui va leur permettre d'avoir des personnes qualifiées qui seront capables de répondre aux besoins des entreprises. Parce que quand les centres ont bien formé, les entreprises viendront se ressourcer là-bas pour chercher une main-d'œuvre. Et parfois, on a des entreprises qui tombent en faillite parce que le premier résultat qui fait vraiment qu'une entreprise fonctionne bien et qui produise des effets positifs, c'est la qualité de main-d'œuvre, c'est la qualité des ouvriers. En tout cas, moi, comme sous-proveide dans la formation, je suis amoureuse du métier. Je suis dans le domaine des cosmétiques parce que j'ai fait la formation biologie et chimie. J'aimerais assez que d'abord les centres améliorent leur façon de faire et de voir les choses. Que les centres forment pas pour l'argent d'abord, je veux bien qu'ils auront de l'argent, mais qu'ils forment d'abord pour l'intérêt de cet apprenant-là. Une personne formée qui soit à niveau, c'est-à-dire vous avez des matériels, vous avez tous les moyens qui vous permettent de former cette personne-là pour qu'il soit capable de prester, qu'il soit capable d'aller dans les entreprises, qui ne déçoivent pas, qu'il amène des innovations dans les entreprises, que ce soit une personne qui est vraiment à la hauteur de ses tâches et capable, qui doit initier des activités génératrices de revenus, qui doit être promoteur lui-même de sa propre entreprise.
Madame Claudine, nous te disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre particulière attention.